Vous écoutez On lit pour vous.
En juin, je lis Autochtones, 5 suggestions de livres jeunesse des éditions Anne Norak. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtones. La collection Petit tonnerre des éditions Anne Norak. Autrefois, chez les Wendat, les légendes étaient racontées aux enfants seulement lorsque le tonnerre se cachait sous la neige. La collection Petit tonnerre offre aux enfants des histoires pour nourrir leur imaginaire, ouvrir leurs horizons. 1. Aki, de Valérie Richer-Obomsawin, illustration de Meke Ottawa, dès 4 ans. Aki est un album où la beauté des choses se dévoile avec tendresse et se lie au rythme des battements du cœur. Avec un regard d'enfant empreint d'émerveillement, Valérie Richer-Obomsawin rend ici hommage à la terre et à tout ce qu'elle nous offre. 2. La femme renard, de Béatrice Dear, illustration de D. G. Aaron, dès 6 ans. Par une nuit sans nuages, une renarde tombe sur terre et croise une famille d'humains. Au fil des saisons, elle suit les déplacements de la famille de campement en campement. Sa fascination pour les humains ne cesse de croître, mais elle se fait plus forte encore pour Irnik, le plus vieux des fils. En âge de chasser pour subvenir à ses besoins, Irnik part de son côté. Un jour, en entrant dans sa tente, il s'étonne de trouver la lampe allumée, un thé chaud qui l'attend et une femme qui prétend être sa compagne. Fatigué de vivre seul, Irnik l'accueille, mais bientôt il ne peut s'empêcher de se poser des questions. Reconnue pour l'excellence de son travail musical, Béatrice Dear signe ici une adaptation de sa magnifique chanson « Fox », inspirée d'un conte traditionnel inuit. 3. Amy Osawapikones, « Cher pissenlit » de S.J. Okermont, dès 4 ans. Osawapikones, tu es magique. Une célébration de la force et du potentiel du pissenlit, l'une des plantes les plus répandues, mais aussi l'une des plus ignorées. 4. Cousine Conissa, de Joanie Gill, illustration d'Amélie Courtois, dès 4 ans. Les fins de semaine d'hiver, plusieurs membres de la famille de Cucum se retrouvent au camp familial en territoire. Les cousines Laura et Conissa se réjouissent toujours du temps qu'elles passent ensemble, mais cette fois elles auront la joie d'apprendre ce que signifie le prénom de l'une d'elles. 5. Augwis, de la tête aux pieds, de Rebecca Thomas, illustration de Maya McKibben, dès 6 ans. Être Mi'kmaq, qu'est-ce que ça signifie? Augwis a des papillons dans le ventre. C'est aujourd'hui que son papa l'amène rencontrer ses tantes, ses oncles et ses cousins. Quand il lui dit, avant de partir, que le jour est venu pour elle d'apprendre ce que c'est qu'être Mi'kmaq, les papillons grossissent. Et s'il fallait que la famille de son papa ne lui ouvre pas les bras? C'était « En juin, je lis Autochtones », 5 suggestions de livres jeunesse des éditions Anne Norak. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet « Je lis Autochtones ».
Plaidoyer pour l'enseignement de la compassion en médecine, un texte de Jean-Benoît Legault, publié le 6 juin 2026 dans Le Devoir. Une étude souligne l'importance du curriculum caché dans la formation des professionnels de la santé. Les étudiants en médecine peuvent apprendre la compassion, mais on doit accorder une attention particulière au développement de leurs compétences en la matière et ils doivent pouvoir compter sur l'exemple de leurs aînés, indique une revue systématique publiée plus tôt cette année par le journal Academic Medicine. Dans l'apprentissage des futurs professionnels de la santé, il y a le curriculum formel, mais il y a aussi le curriculum caché, a rappelé la chef du service de douleurs chroniques au CHU de Québec, Université Laval, la docteure Anne-Marie Pinard, qui détient également une maîtrise en pédagogie des sciences de la santé. Le curriculum caché, a-t-elle expliqué, est constitué de toutes ces compétences qu'on doit acquérir comme professionnel de la santé, mais qui ne sont pas toujours nommés sur un papier. Comme cette capacité à la compassion qui est considérée comme essentielle pour quelqu'un qui va procéder à des soins auprès de gens malades, mais ce n'est pas toujours ou ce n'a pas toujours été nommé comme étant quelque chose à développer, a indiqué la docteure Pinard. Les auteurs de la revue Systématique sont d'accord. Les programmes d'études officiels et implicites doivent intégrer une formation continue à la compassion, estime-t-il. Depuis les évaluations et l'enseignement en stage clinique jusqu'au perfectionnement du corps enseignant, afin de favoriser la compassion dans la formation médicale. Ce qui semble extrêmement important pour l'apprentissage de la compassion par les étudiants, a souligné la docteure Pinard, c'est d'être capable d'observer des étudiants qui sont plus avancés qu'eux ou des patrons qui expriment de la compassion dans leur rôle de soignant. Le simple fait de prendre le temps de s'asseoir pour discuter avec un patient alité pour éviter de donner l'impression d'une hiérarchie pourra être un excellent exemple de compassion, a-t-elle ajouté. L'exemple donné par les enseignants peut toutefois se révéler être un couteau à double tranchant, rappellent les chercheurs. Si l'exemple donné par les modèles était le moyen le plus efficace d'enseigner et de susciter la compassion, écrivent-ils, le fait d'observer un manque de compassion de la part des précepteurs limitait l'expression de la compassion chez les étudiants. Il importe, a dit la docteure Pinard, de ne pas confondre empathie et compassion. Si l'empathie consiste à se mettre dans la peau de l'autre et implique un certain niveau de partage émotionnel, la compassion représente plutôt un désir d'alléger la souffrance d'autrui. C'est beaucoup plus positif dans un contexte de soins de santé d'avoir de la compassion parce que ça amène quelque chose de plus intéressant en ayant une intention d'aider que simplement à ressentir les choses négatives qui arrivent à quelqu'un, a-t-elle commenté. De plus, poursuit la docteure Pinard, la compassion semble activer des circuits plus positifs que l'empathie dans le cerveau, ce qui pourra mener à moins d'épuisement. Les auteurs de la revue Systématique abondent dans le même sens en faisant remarquer que la compassion profite également aux praticiens en exercice en réduisant l'épuisement professionnel. Les établissements de santé, quant à eux, y trouveraient leur compte avec une fidélisation du personnel soignant, des économies de coûts, une diminution des poursuites pour faute professionnelle et une plus grande satisfaction des patients. On aura souvent le réflexe de conclure que la compassion ne peut pas s'apprendre, ou bien tu l'as ou bien tu ne l'as pas, a déploré la docteure Pinard. Mais ce n'est pas vrai. On peut développer de la compassion et on peut apprendre à exprimer notre compassion sans s'épuiser, sans avoir l'impression de toujours donner et de ressentir à la journée longue les difficultés de nos patients, a-t-elle dit. D'où l'importance d'aussi développer une autocompassion, a poursuivi la docteure Pinard, pour pouvoir s'auto-apaiser, s'auto-soigner si on veut, pour ne pas se laisser envahir par les histoires tristes des patients. Si tout cela peut sembler bien beau en théorie, il existe sur le terrain des obstacles qui pourront entraver la pratique de la compassion, allant des contraintes de temps, la pression d'être plus efficace, et un ordinateur qui ne veut pas s'allumer, a rappelé la docteure Pinard. C'est très difficile dans le contexte actuel de réussir à le démontrer et de réussir à prendre le temps de le faire réaliser à nos étudiants, parce que la pression du temps est extrêmement présente, a-t-elle souligné. C'est difficile d'avoir de la compassion pour un ordinateur défectueux. La revue Systématique met aussi en lumière l'importance pour les étudiants en médecine de pouvoir discuter avec des patients partenaires, a souligné la docteure Pinard. On le voit de plus en plus, on donne un cours puis on amène avec soi quelqu'un qui va témoigner de son expérience, a-t-elle dit. Et ça, en général, c'est ce dont les étudiants se souviennent. Ils ne se souviennent pas nécessairement de la théorie. Ils vont se souvenir de l'histoire, de l'émotion, de certains trucs. Il faut faire vivre des expériences aux étudiants. Mais ça aussi, reconnaît-elle, ça prend du temps. Les étudiants en médecine ont tellement de choses à apprendre, ils ont tellement de notions à assimiler, mais il faut faire une petite place pour ces choses-là, conclut la docteure Pinard. C'était Plaidoyer pour l'enseignement de la compassion en médecine, un texte de Jean-Benoît Legault, publié le 6 juin 2026 dans Le Devoir.
Un aliment expire-t-il vraiment à une date précise? Un texte paru le 5 février 2023 dans le magazine Québec Science. Meilleur avant. Que signifie la date imprimée sur l'emballage d'un aliment? Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas de la date où il devient risqué pour la santé de le manger. Tu as faim. Tu explores le frigo et tu déniches un petit yogourt aux cerises, ta saveur préférée. Mais voilà, la date, meilleure avant, remonte à 2 semaines. Peux-tu le manger quand même? Probablement. Si l'emballage de ton yogourt est intact et qu'il a été conservé correctement, au froid, il ne devrait pas y avoir de problème. Car ce yogourt a été emballé dans des conditions aseptiques, c'est-à-dire exemptes de microbes. S'il n'est pas ouvert, il n'y a aucune raison que des bactéries dangereuses y apparaissent soudainement du jour au lendemain. Rien ne se perd, rien ne se crée, comme l'a si bien dit Lavoisier. Un tel aliment reste sain très longtemps. Et il en va de même pour la plupart des aliments. Mais que veut dire la date, alors? Rien de plus que ce qu'elle dit, meilleur avant. Elle indique que, selon le fabricant, la saveur, la qualité du produit sont à leur maximum avant cette date. Ensuite, il pourrait être un peu moins bon au goût. Mais pas dangereux pour autant. Par exemple, certains ingrédients pourraient s'oxyder à cause des traces d'oxygène dans l'emballage et modifier le goût. Attention, cela ne veut pas dire qu'aucun aliment ne peut être contaminé. Mais ça n'a rien à voir avec la date de péremption. La façon simple de détecter des aliments avariés? Fie-toi à tes sens, surtout la vue et l'odorat. L'aspect de ton aliment est bizarre, différent, couleur terne, tache bizarre. Il dégage une odeur inhabituelle. Ne le mange pas, c'est mauvais signe. Mais inutile d'utiliser la date de péremption pour faire ce choix. Juste aux États-Unis, il se gaspille plus de 135 000 tonnes de nourriture lors du week-end de l'Action de grâce. Et une grande partie de ce gaspillage est due aux dates de péremption qu'à peu près tout le monde considère comme une limite à ne pas franchir. Sur cette planète aux ressources limitées, ne contribue pas au gaspillage. C'était « Un aliment expire-t-il vraiment à une date précise ?» un texte paru le 5 février 2023 dans le magazine Québec Science.
Les Américains yeutent les maisons canadiennes. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 4 juin 2026 dans la presse. Plus l'actualité est inquiétante aux États-Unis, plus les Américains semblent s'intéresser à l'immobilier canadien. C'est la conclusion d'une analyse des données de trafic du portail immobilier de Royal LePage qui montre une forte augmentation du nombre de visiteurs en provenance des États-Unis en 2026. Chaque fois qu'il y a un événement qui augmente le clivage politique aux États-Unis, on a remarqué une augmentation assez significative des visionnements du site, explique Marc Lefrançois, courtier immobilier chez Royal Lepage Tendance. Les dernières semaines ont permis d'observer des sommets particulièrement impressionnants, alors que des pics s'approchant des 80 000 visiteurs américains hebdomadaires ont été atteints en avril et en mai 2026, bien au-delà des chiffres habituels. Ces hausses d'intérêt coïncident avec des développements politiques et juridiques liés à l'envoi par la poste de mifepristone, un médicament utilisé pour les avortements. Lors de la semaine du 26 avril au 2 mai 2026, le trafic provenant de visiteurs américains a carrément augmenté de 542% par rapport à la même période de l'année précédente. D'autres événements ont eu des impacts similaires. L'agence immobilière a, par exemple, enregistré une hausse de 233% du nombre de visiteurs américains sur son site durant la semaine du 5 au 11 avril 2026, par rapport à la même période en 2025. Cela coïncidait avec l'intensification des tensions géopolitiques liées au conflit iranien. Cette semaine-là, 44 414 usagers domiciliés aux États-Unis ont visité le site de l'agence immobilière alors qu'ils étaient 13 327 à le faire un an plus tôt. La tendance vers le haut a aussi été perceptible dans la foulée des manifestations No King à la fin du mois de mars 2026 aux États-Unis. Entre 8 et 9 millions de manifestants avaient participé à plus de 3 000 événements. Le trafic avait également augmenté de 65 % par rapport à l'année précédente au cours de la semaine du 11 au 14 janvier 2026, marqué par la nouvelle mondialement médiatisée de la mort de Renee Good, une mère de famille du Minnesota, aux mains d'un agent fédéral. 19 % plus cher au Canada. Cela dit, les Américains, Canado curieux, ont peut-être sursauté en voyant les prix des propriétés. Le marché canadien est nettement plus cher. En 2026, le prix de vente médian d'une propriété était de 560 000 $ canadiens, 403 200 $ US aux États-Unis, contre 666 400 $ au Canada, selon l'Association canadienne de l'immobilier, ACI. Les maisons sont donc 19 % plus chères au Canada. Pourtant, les revenus sont plus élevés au sud de la frontière. Le revenu médian brut y est de 116 385 $ canadiens, 83 730 $ US par ménage, alors qu'il s'élève à environ 84 000 $ au Canada, une différence de 38 %. Vague migratoire? Visionner des propriétés sur l'Internet est une chose. Entreprendre le déménagement international de sa famille en est une autre. Marc Lefrançois ne croit pas que nous sommes sur le point de voir une vague migratoire arriver du Sud. Cela dit, on entendait historiquement parler des Canadiens qui veulent aller vivre aux États-Unis. De voir un intérêt des États-Unis pour le Canada, c'est assez surprenant. Je n'avais pas pensé voir ça de mon vivant, mais on le voit, dit-il. Monsieur Lefrançois signale que l'achat de propriétés par des étrangers est complexe au Canada. Selon lui, si des Américains désiraient s'établir au pays, des villes comme Toronto ou Vancouver seraient des choix naturels en raison de la taille de leur économie, de la géographie ou de la langue. De façon anecdotique, on voit des Américains qui achètent des résidences secondaires au Canada. À Toronto et en Colombie-Britannique, certains s'achètent des condos ou des chalets qu'ils auraient peut-être achetés en Californie. L'idée est d'avoir un pied à terre si le bordel prend aux États-Unis, dit-il. On n'est pas dans une dynamique où ça a un impact sur les prix des propriétés au Canada, dit-il. C'est davantage un phénomène qui est lié à la politique et aux événements dans l'actualité. Les élections de mi-mandat l'automne prochain aux États-Unis risquent d'être un baromètre pour déterminer la suite, selon lui. Si les démocrates font des gains importants, ça pourrait calmer les choses. Au contraire, si les républicains devaient l'emporter, ça pourrait être l'inverse et hausser d'un cran l'intérêt pour le Canada, comme on l'a vu avec certains événements très médiatisés. Le lien entre l'actualité et les visionnements des propriétés canadiennes de la part de visiteurs américains n'est pas inédit. Des pics de trafic en provenance des États-Unis vers le site de Royal LePage ont déjà coïncidé avec des événements politiques majeurs depuis le début du premier mandat de Donald Trump en 2017, signale l'agence. C'était « Les Américains yeutent les maisons canadiennes », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 4 juin 2026 dans La Presse.
Mon changement de perspective sur le basketball en fauteuil roulant, un texte de Jean Carrier publié le 6 juin 2026 dans La Voix de l'Est. Quand je regardais des séquences de parties de basketball en fauteuil roulant à la télévision aux derniers Jeux paralympiques de Paris en 2024, je me disais que ça semblait facile. J'étais certain de pouvoir devenir un bon joueur si l'occasion se présentait. Après tout, je suis un bon joueur de basketball. Bon, je n'ai plus nécessairement ma vitesse d'autrefois, mais je lance encore très bien et je sais quoi faire avec un ballon dans les mains. En marge du championnat national junior de basketball en fauteuil roulant 2026, la Société hôtesse des Jeux du Canada 2027 donnait la chance aux médias de venir essayer ce sport. Voilà ma chance de venir tester ma théorie. Après de courtes explications sur les règlements de ce sport, les organisateurs laissent quelques minutes aux participants pour se familiariser avec le fauteuil roulant. Dès mes premiers déplacements, je constate que je ne peux pas faire ce que je veux avec le fauteuil. Si avancer en ligne droite ne pose pas trop de problèmes, c'est complètement différent pour tourner et négocier des déplacements plus complexes. Je m'aperçois rapidement que tu n'avances pas beaucoup si tu ne pousses pas sur tes roues de façon constante. On est seulement dans l'activation et je transpire déjà. Ça va être beau tantôt. On introduit à ce moment les ballons et dès mon premier tir aux abords du panier, je constate une énorme différence avec le basketball. Prendre un tir de façon statique est très difficile avec le fauteuil. La puissance que tu vas chercher habituellement avec tes jambes n'est plus disponible et mon tir ne touche même pas l'anneau. Un bon vieux airball, quelle honte! On se fait alors conseiller de prendre de l'élan avec le fauteuil avant de tirer. La vitesse du fauteuil aide à aller chercher de la puissance. Ça va un peu mieux, mais c'est le monde à l'envers avec le basketball que je connais, où tu cherches à être stable avec tes jambes avant de lancer. Je pensais que mon tir serait un atout, mais ce n'est vraiment pas le cas. Un autre aspect difficile est le dribble avec le ballon. J'ai l'habitude de dribbler sur le côté de mon corps, mais c'est très difficile avec le fauteuil en raison des roues. J'effectue l'ajustement pour dribbler un peu plus vers l'avant du fauteuil, mais je ne me sens pas très à l'aise. Finalement, on sépare les participants en deux équipes et on débute la partie. Une chance que des joueurs plus expérimentés nous accompagnent pour introduire un peu de dynamisme. Après 5 minutes de jeu, j'ai déjà mal au bras. Le jeu est échevelé et je ne suis pas le seul à avoir des difficultés. Les changements de possession sont particulièrement éprouvants, puisque tu dois carrément arrêter ton rythme pour aller dans la direction inverse rapidement pour protéger ton panier. J'ai réussi à avoir quelquefois le ballon et je prends même un tir qui termine finalement loin de l'objectif. C'est vrai, J'avais oublié qu'il faut lancer avec de l'élan. Avez-vous déjà eu l'impression de faire un sport et que votre cerveau pense trop rapidement en rapport avec la réaction de votre corps? C'est exactement de cette façon que je me sentais, mais mon corps est remplacé ici par les mouvements avec le fauteuil. Ça fait maintenant 10 minutes qu'on joue et il n'y a toujours aucun panier de réussi. Les revirements sont omniprésents, ce qui ne laisse aucun doute sur la qualité du jeu collectif. On arrive maintenant à la fin de la partie et j'ai hâte d'arrêter. Mon effort n'est déjà plus le même qu'au début. On siffle la fin du match et mes bras tremblent après cet effort très ciblé. Personne n'a marqué de panier. Je pensais pouvoir me démarquer du lot, mais un seul verdict s'applique ici. J'ai adoré mon expérience, mais je suis franchement mauvais. Question de nous montrer à quoi ressemble du vrai basketball en fauteuil roulant, un match du championnat national de 24 ans et moins entre le Québec et l'Alberta suit notre essai. Je suis fascinée de regarder les athlètes se déplacer en fauteuil. Les déplacements sont tellement fluides avec le fauteuil, on dirait que ça devient une extension de leur corps. Le jeu va nettement plus vite qu'à la télévision également. C'est impressionnant de les voir jouer. L'assistante entraîneuse avec l'équipe du Québec, Karine Chiquan, nous informe que ça prend des années d'entraînement pour voir ce genre d'habileté chez les athlètes. Ça vient avec beaucoup de travail et c'est pour cette raison qu'on aime avoir une relève de jeunes athlètes. Il y a beaucoup d'habileté à développer. Elle nous informe également que le seul critère pour jouer est de le faire avec un fauteuil roulant. Chaque athlète a un pointage individuel basé sur son handicap. Une personne sans handicap possède le pointage le plus élevé, 4, tandis que les handicaps les plus sévères comptent pour moins. En tout temps, ton alignement sur le terrain ne peut dépasser 15 points. Les entraîneurs doivent donc constamment jongler avec cette réalité. C'est certain que ce règlement est un énorme aspect stratégique dans du basketball en fauteuil roulant de haut calibre. Basketball en fauteuil roulant de haut calibre, une phrase que je sais maintenant qui sera à jamais dissociée de mon nom de famille. On va laisser ça aux vrais basketteurs paralympiques. C'était mon changement de perspective sur le basketball en fauteuil roulant, un texte de Jean Carrier, publié le 6 juin 2026 dans La Voix de l'Est.